Il est 20h et tout de suite, ça va fumer entre tes AirPods. C'est la demi-heure sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la demi-heure, je suis Pitoum, ton hôte, et tout ragaillardi par quelques jours d'une météo si clémente qu'on en finirait presque par oublier qu'à Gaza, des bombes tombent sous le soleil, notamment sur des convois humanitaires ou des tentes de journalistes. Voilà, autant dire qu'entre la Russie et Israël, il y a clairement un vocabulaire commun sur la notion de cessez-le-feu, qui est en fait visiblement une abréviation d'un ordre militaire. Hein, dans sa version complète, il dirait cessez-le-feu et commencez le napalm. Mais je suis pas seul, dans mon amnésie printanière et dans le studio. Puisqu'avec moi, il y a évidemment Rosalie à la réalisation. Salut Rosalie.
Salut.
Il y a aussi Margot avec elle.
Hello.
Et merci d'être là. Et il y a évidemment Jérémy qui va nous parler de la gauche.
L'autre, la droite.
Ah oui, non, je confonds toujours en fait, mais c'est à cause de Roussel ça. Mais sans plus attendre, commençons par le commencement. Que s'est-il passé dans le monde depuis un mois ?
L'Assemblée nationale a adopté mardi 1er avril une proposition de loi qui vise à intégrer la notion de non-consentement à la définition pénale du viol. Le texte redéfinit l'article du code pénal qui porte sur les agressions sexuelles, dont le viol, et le redéfinit comme tout acte sexuel non consenti. Il propose aussi de préciser ce que le non-consentement signifie.
Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
Ben voilà une bonne nouvelle. Enfin, je dis bonne nouvelle, mais le sentiment général, c'est plutôt « Ah ben, c'est pas trop tôt !» Non, parce que si cette loi a été votée à la majorité, moins le RN et une partie de la droite, ainsi que 3 ou 4 députés socialistes qui se sont égarés, elle aurait pu l'être dès novembre dernier, lorsque la députée Sarah Legrain avait présenté un texte similaire, rejeté en commission des lois, puis absent de la niche parlementaire du groupe Insoumis suite à l'obstruction des macronistes qui ont empêché tout vote de se dérouler. Mais du passé, faisons table rase et réjouissons-nous de cette première étape franchie, tandis que le texte continue sa route vers le Sénat, majoritairement à droite.
One does not simply walk into Mordor. Its black gates are guarded by more than just orcs. There is evil there that does not sleep.
Oui, alors forcément, ça va être une autre paire de manches, hein, mais on verra ça en temps et en heure. Pour le moment, concentrons-nous sur cette avancée, puisque je le rappelle, avant cette loi, la notion de consentement n'était absolument pas présente dans la définition du viol. Et pour ceux qui sont en train de s'imaginer devoir faire signer des contrats avant de tripoter les génitoires d'une tierce personne, je pense sincèrement que le fait même d'imaginer ça est une preuve d'un rapport au consentement un chouïa fucked up à la base. Mais clairement, ça ne plaît pas à tout le monde, cette histoire. N'est-ce pas, Pascal ?
Même, il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche.
Oui, je sais pas toi, auditeuriste, mais j'ai de moins en moins l'impression que CNews est une chaîne de télé, mais de plus en plus un espèce de best-of de ce que l'humanité produit de pire en termes de clichés. Tu sais, tous ces dialogues où dans un film ou une série, tu te dis « Non mais là, c'est un peu gros, c'est pas crédible. » Tu zappes sur CNews et hop, Pascal Praud le dit « Prom Dug ». Mais ne t'inquiète pas, Pascal, les choses changent, mais suffisamment lentement pour que tu crèves avant qu'on arrive dans un monde vraiment féministe.
Ces manifestants réunis à Louvain protestent contre une décision de justice qui fait grand bruit. Un gynécologue en formation a violé une étudiante. Il a été reconnu coupable, mais n'a pas été condamné à une peine. Pour le juge, les faits sont clairs, ils sont graves et inacceptables. L'étudiant est donc reconnu coupable de viol. Mais, et c'est très rare, l'étudiant bénéficie d'une suspension du prononcé. Ça veut dire qu'aucune peine n'est infligée et que rien n'apparaît dans son casier judiciaire. Le juge a examiné la personnalité de l'auteur qui reconnaît les faits, décrit comme un homme engagé et talentueux, au casier judiciaire vierge et à la carrière prometteuse.
Oui, oui, tu as bien entendu, le mec a été reconnu coupable de viol, mais sans condamnation ni inscription au casier judiciaire pour ne pas mettre en péril sa carrière de gynécologue. Les carrières brisées, tout ça. Je sais pas, peut-être qu'en Belgique, le proverbe, c'est pas on touche avec les yeux, mais on regarde avec les mains plutôt ? Mais c'est surtout la raison invoquée qui est lunaire. Le jugement dit une personnalité favorable. Je sais pas qui est le juge, mais c'est pas un verdict ça, c'est le résultat d'un test Grazia. En apprenant la nouvelle, Guy Georges s'est immédiatement inscrit pour faire médecine à la rentrée. Et puis, qu'on parle de psychopathe on parle de psychopathe misogyne, après avoir viré des mots MOTS des sites et programmes fédéraux, voilà que Trump rajoute des mots MAUX à l'économie mondiale.
Selon plusieurs internautes, Donald Trump pourrait donc imposer des droits de douane à une île peuplée uniquement de pingouins.
Oui, effectivement, et ce alors qu'on vient de le voir, effectivement, hein, les droits de douane annoncés par Donald Trump le 2 avril dernier ne cessent de semer la zizanie sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, ainsi, de nombreux internautes affirment que dans la liste des 185 pays et territoires qui ont été donc surtaxés par Donald Trump, se trouveraient les îles Heard et McDonald's. Ces îles, en fait, elles contiennent aucune personne, mais à part seulement peut-être des pingouins.
Voilà, ça aurait pu être un poisson d'avril que Lady Pingouin se serait sans doute empressé de gober, mais non, c'est bien réel. Et tandis que les marchés s'effondrent et que les gouvernements du monde entier cherchent à contenir les conséquences désastreuses pour l'économie mondiale de ces nouvelles taxes américaines, les économistes vivent ce que les médecins ont vécu il y a quelques années, en plein Covid, quand Donald Trump déclarait ceci.
J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée.
Mais 5 ans après, ça ne l'est toujours pas, Donald. C'est donc la piqûre de rappel, hein. C'est un gros débile. Non, il fallait pas écouter ses conseils pendant la pandémie parce que niveau médecine, je n'aurais même pas filé les pinces de Dr Maboul. Et niveau économie, aujourd'hui c'est pareil, il bloque encore au niveau 2 d'Adibou. Hein. Là, à la Maison Blanche, ils lui ont installé Adi spécial récession, mais pour l'instant, il n'arrive même pas à allumer le PC. Et je sais que récession, c'est un grand mot et qu'il faudrait bien plus qu'une revue de presse avec des punchlines miteuses pour essayer de toucher du doigt ce que pourrait provoquer une récession à échelle mondiale. Mais on en a déjà connu 2 depuis le début du siècle. La première en 2008, causée par la crise du système financier, et la seconde il y a 5 ans à peine avec la pandémie. Alors chacune a ses spécificités, hein, mais on retrouve un certain nombre de conséquences qui risquent de nous tomber dessus dans les prochains mois. Effondrement des marchés, ça c'est déjà en cours, augmentation du chômage, augmentation de la dette publique, baisse du PIB, augmentation des inégalités sociales. Et on sait que ces événements ce que ces événements produisent, et spoiler alerte, c'est pas poutou que ça fait monter dans les sondages. Et puisqu'on parle de la meute, on ne pouvait pas conclure cette revue de presse sans se féliciter de la condamnation de Marine Le Pen et 23 de ses co-accusés, ainsi que de son parti dans l'affaire des assistants parlementaires. Alors l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National, ça concerne le détournement de près de 4,1 millions d'euros de fonds européens entre 2004 et 2016, en rémunérant des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti en France, dont le garde du corps de Marine Le Pen, son mari, sa sœur, etc. Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité immédiate. Plusieurs cadres eurodéputés et assistants ont aussi été condamnés et le RN a écopé d'1 million d'euros d'amende ferme et 5 millions avec sursis, je crois. J'en connais une qui doit être vachement contente parce que ce qu'elle voulait et ce qu'elle déclarait il y a 10 ans, c'était ça.
Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat?
Bah oui, alors je sais Marine, hein, c'est pas à vie, mais 5 ans c'est déjà pas mal, non? Mais non, Marine, elle n'est pas contente. Elle est même très mécontente parce que ce sont vraisemblablement des vilains juges d'extrême-gauche qui veulent l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Des juges qui, probablement, dans une approche pascalienne du monde, sont habités par un esprit de vengeance contre l'extrême-droite, probablement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être regardés par des fachos, et qui nourrissent contre eux un sentiment de revanche. Et Marine ne va pas se laisser faire, hein, elle va même résister, et pour ça, elle a un modèle.
Je veux dire que notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits.
On l'avait pas vu venir celle-là. Martin Luther King, carrément. Non, bah oui, pourquoi pas. Nous, on est un peu con-con parce que on regardait les personnalités politiques qui lui ont apporté directement son soutien. On se disait, il y a un pattern. Poutine, Musk, Orban, Salvini, Zemmour, Bolsonaro. En gros, il lui manque Kim Jong-un pour pouvoir crier « famille ». Mais non, non, Marine, elle préfère convoquer l'une des figures de la lutte contre la ségrégation. Mais c'est comme si Guy Georges encore avait invoqué l'esprit du docteur Ambroise Paré pour justifier ses atrocités un peu. Alors je sais, hein, y a des débats en ce moment à gauche sur l'application immédiate de la peine, avec d'un côté les insoumis évidemment qui disent que plutôt non, généralement on est contre, donc il n'y a pas de raison de faire une exception. Et de l'autre, celles et ceux qui disent que c'est la loi, c'est normal et s'en tiennent aux motivations du jugement. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'en réalité c'est une question plutôt complexe, et la chaîne L'Esprit Critique, que je t'incite à suivre, auditoriste, hein, je voulais écrire « t'invite » d'ailleurs, et puis j'ai fait une faute de frappe, et je me suis dit qu'en fait c'était plus directif « t'incite » et c'était pas mal. Bref, la chaîne a fait donc une vidéo d'une vingtaine de minutes sur le sujet, qui explique plutôt clairement les tenants et les aboutissants pour que tu puisses te faire ton propre avis. Non, moi ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est les maths. Parce que moi j'ai dépassé le niveau 2 de Hadibou, je suis pas allé beaucoup plus loin, mais suffisamment pour me rendre compte que, selon le Rassemblement National, il y a 7 millions d'immigrés en France, qui coûtent 20 milliards, soit à peu près 3000 euros par immigré. Or, 24 membres du Rassemblement National viennent d'être reconnus coupables pour avoir détourné 4,1 millions d'euros, ce qui représente 170 000 euros par personne. Ce qui veut dire qu'un membre du RN nous coûte collectivement 57 immigrés. Moralité, pour les finances publiques d'après le RN, c'est Le Pen et sa clique qu'il faut renvoyer.
Vous venez d'écouter Regret de Avatar et sûrement dans la playlist de Marine.
C'est la voisine de...
Contre le grand capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure.
Je sens que ça va encore être épique.
Épique, ça l'est, à n'en pas douter. C'est l'heure du sujet chiant, à 20h15, passé de 18-19 secondes, Jérémy.
Il y a beaucoup trop de son dans cette émission, t'inquiète oui, pas, c'est insolent.
Rosalie, la panique.
On parle souvent... Ouais, non, enfin, en fait, je veux dire souvent, c'est déjà donné beaucoup trop de valeur à nos amis droitards. On parle parfois, déjà trop, de l'idée que la France éternelle, la France du général, serait en train de se faire grand remplacer par les musulmans. Mais on ne parle clairement pas assez du fait que la France est en train de se faire grand droitiser. Or, c'est un constat qu'on pourrait être en droit de faire, et c'est l'objet du sujet chiant de ce soir. La France paraît de plus en plus à droite. À droite.
Et bientôt, la droite arrive, mais je ne sais pas pourquoi il y a un petit problème en radio. à ne pas comprendre du tout. Et cette droite qui a un petit problème comme nous, je dirais. Tu vois, de problèmes techniques.
Ah, c'est la voisine de palier qui touche une allocation de mère isolée et il y a un loulou dans le circuit. C'est le frère qui utilise la carte Vita du gars assuré social alors que lui, il n'est pas parce qu'il est en situation irrégulière. C'est ça qui énerve les gens beaucoup plus que la fraude fiscale.
Merci Roselyne Bachelot. Et donc quand on prétend poser cette question de la France qui paraît de plus en plus à droite, quand on discute à la cafette de cette question, quand on veut ouvrir ce débat autour d'une bière en terrasse, très vite on se heurte à deux écueils qui sont en même temps les deux lignes de défense de nos interlocuteurs. La première ligne de défense, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet général. La seconde, c'est l'effet symétrie. Alors, je ne cherche pas du tout une référence académique dans mes propos, cher toi qui nous écoutes, c'est de l'empirisme pur, tout ça. Tiens, par exemple, réfléchis deux secondes à la séquence qui va suivre et dis-moi si tu t'y retrouves. Tu imagines la scène. Jérémy et Pitoum sont en train de boire une bière au soleil à 8h du matin.
Non, c'est pas possible, je bois pas de bière.
À 8h du matin ?
Non, en général, c'est dégueu.
Ok, d'accord. Bon, donc je suis en train de boire une bière et toi, tu bois un smoothie quinoa, carotte et gentiane, vegan, évidemment. Et on discute, on refait le monde, et je te dis que je trouve qu'en ce moment, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus cons.
Alors, on en a déjà parlé, on dit pas que les gens sont cons, c'est pas bien, on dit qu'ils sont de droite, et qu'ils ont le droit, par ailleurs.
Ok, donc on discute, et je te dis que les gens sont en train d'abuser de leur droit d'être cons, en ce moment, je trouve. D'ailleurs, toi-même, tu tiens des propos de plus en plus débiles sur les migrants, par exemple.
Je dis qu'il faut quand même pas laisser ce terrain de la discussion aux seuls républicains et aux RN.
Voilà, ou sur l'économie.
En même temps, avec la dette qu'on a, faut bien rationaliser les services et les politiques publiques. On peut plus être trop généreux.
Voilà, donc, et je te dis, même toi, tu te droitises. Et là, première ligne de défense, bam, l'effet général.
La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche. La France. C'est pas la droite, la France. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France.
Il recoule bien.
Pour la France, mais quand même une certaine idée de la France. Je t'imagine bien dire ça autour de ton quinoa carotte gentiane. Et donc là, je te dis ça, tu t'insurges. Tu me dis que j'ai tort.
Comme d'hab.
Et que c'est n'importe quoi, qu'il faut que je redescende de mon paladin.
Oui, descende ton paladin d'abord.
Et que c'est le début. Et là, c'est le début de ta deuxième ligne de défense.
Alors, de toute façon, t'as des pots de saucisson devant les yeux. La France, son problème, c'est qu'elle est surtout trop gauchisée. Voilà.
Exactement.
Vraiment,
et
moi.
Comme tu ne sais pas quoi répondre, tu symétrises l'argument.
Moi, je trouve personnellement, excusez-moi, mais que c'est souvent, et même la culture, je veux dire, Avignon, ou alors il y a le Off Avignon, il y a une Avignon, mais je trouve effectivement, moi, qu'elle est souvent propagandiste, c'est-à-dire qu'elle oblige les gens à aller dans une certaine voie.
Alors, elle est trop à gauche, dites-nous les choses telles que vous le pensez.
Oui, souvent, elle est trop à gauche.
Voilà. Magnifique. Magnifique argument qui consiste en la stratégie rhétorique élaborée du « c'est celui qui dit qui est ». Et puis, dans une conversation, ça peut durer longtemps. Hein. « C'est toi qui te droitises ?»« Non, c'est toi qui te gauchises ?»« Espèce de trou de balle, à funambule ?» Pourtant, je maintiens, dès qu'on prétend dire que le débat est un peu trop calibré sur des sujets liés à la droite et qu'on ne parle pas assez des sujets de fond de la gauche, on s'en prend mais plein la mouille. D'ailleurs, d'une manière assez générale, on s'autorise quand même des propos relativement asymétriques et assez violents sur la gauche. Tiens, par exemple.
L'extrême droite. Moins d'un an de l'élection présidentielle, on est vraiment fondé à se poser la question suivante. Est-ce qu'on n'a pas affaire à la gauche la plus bête du monde ?
Voilà. Et donc, pourquoi la journaliste du Point, ce grand hebdomadaire du, je cite, journalisme libre et exigeant, c'est leur slogan, se permet une telle phrase ? Parce que la gauche n'avait pas de candidature unique. Alors, on aurait pu croire qu'en démocratie, discuter, argumenter, quitte d'ailleurs à ne pas se mettre d'accord, justement, ça pourrait être gage de bonne santé. Mais non, ça en fait la gauche la plus bête du monde. Par contre, la droite, elle, par contraste, elle est futée. Elle a un chef, Ein Kapp, Ein Reich, Ein Volk, oui, je sais, blague facile. Et la même journaliste, en analyste politique fine, acérée, ajoutait une petite cerise sur le gâteau de la gauche.
Tout se passe aujourd'hui comme si 40 ans après l'accession de François Mitterrand à l'Élysée, comme si 20 ans après le séisme du 21 avril 2002, quand la gauche divisée avait permis à Jean-Marie Le Pen de se qualifier au second tour.
J'assume.
Tout se passe comme si on avait affaire à deux gauches irréconciliables, comme l'avait parfaitement diagnostiqué l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Grand analyste de la vie politique lui-même. Et j'aime beaucoup l'idée, hein, dessinée plus ou moins implicitement dans cette prise de parole, que si Le Pen monte, évidemment, c'est la faute de la gauche qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Pas du tout du fait qu'on ne discute que des putains de sujets de la droite dans l'espace public. Pas du fait que nos horizons politiques sont colonisés et bouchés par l'immigration, les profiteurs du système, les chômeurs, les musulmans, tout le bousin, quoi. Moi, j'aimerais bien être journaliste dans un grand média français et m'autoriser en toute légitimité à faire ce genre de prise de parole. Cher Pitoum, bonsoir. Aujourd'hui, devant nos auditeurices, comme vous dites en wokistan, j'aimerais poser cette question fondamentale pour la prochaine élection présidentielle française. A-t-on la droite la plus conne de l'univers connu? Question fondamentale, j'aimerais pouvoir la poser. Et être considéré par mes pairs comme la fine fleur de l'analyse politique francoise. Bref, quel est alors mon constat? Alors déjà, ce n'est pas mon constat. Des chercheurs plus futés que moi, comme Pippa Norris et Ronald Ingelhardt, parlaient dès 2016 de Cultural Backlash, et Pietro Ignasi dans The Silent Counter-Revolution, dès 1992. Qu'est-ce que c'est? C'est cette petite musique qu'on entend un peu tous les jours, avec des variations. On serait allé trop loin. Parmi les citoyens, nos consoeurs et nos confrères, de plus en plus, appelleraient à faire une pause, à revenir à nos valeurs d'ancien temps. Et puis la dette, ma bonne dame. Et puis le wokisme qui gangrène nos sociétés, mon bon monsieur. Oh, et les services publics, ils sont chers et inefficaces. M'en parle pas. Et les charges sociales, oh là 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 là. Vivement qu'on libère les énergies entrepreneuriales face aux normes environnementales qui nous pourrissent la vie.
Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%.
Je sais, Pitoum, j'avais déjà mis ce son la dernière fois, mais je ne m'en lasse pas. Surtout que le petit léchage de cul de Bernard à Donald ne va pas empêcher le groupe LVMH de se prendre des droits de douane comme tout le monde. Ah oui, ça fait mal l'égalité, Bernard, hein, t'as pas l'habitude. Mais bon, sur l'agenda réac, on peut continuer. Tiens, par exemple, à l'école, ça serait pas mal quand même de réintroduire l'uniforme.
Imposer aux élèves une tenue, la même pour tous. Depuis plus de 10 ans, le débat revient régulièrement chez les hommes politiques.
Le premier atout de l'uniforme est de lisser les inégalités. D'abord parce que les marques seraient effacées. Il n'y aurait plus les élèves riches, les élèves pauvres et les parents qui ont la pression de ces marques. Ensuite, cela recentrerait sur les apprentissages.
Oui, c'est le niveau de réflexion. Hein. Si qu'on a les mêmes habits, ben on a plus de temps pour réfléchir. Hein.
Belle imitation.
Après, l'avantage avec l'agenda réac, c'est que, notamment quand il se mêle d'une notion qu'il ne comprend pas, comme l'égalité, c'est relativement facile de lui démonter la gueule à coups de briques dans les dents. Tiens, par exemple, cette assertion étrange, l'uniforme, c'est l'égalité. Mais cher monsieur Réac, crois-tu que les marques ne trouveront pas de nouvelles stratégies? Tu crois qu'avec... les crayons, les trousses, même les téléphones portables. Les gamins ne seront pas toujours dans des logiques de distinction? Ou du coup, la prochaine étape, c'est même gomme et même lunettes de vue pour tout le monde au nom de l'égalité? Et puis, autre exemple, la société anglaise pratique l'uniforme depuis pas mal de décennies quand même. Est-ce qu'elle est plus égalitaire par structure que la France? Cher monsieur Réac, tu as un muscle entre tes deux oreilles, il faut l'utiliser, sinon il s'atrophie. Donc non, même vêtement égale plus de temps pour réfléchir. Très bien. Bon, puis après, il n'y a pas que l'école hein, dans l'agenda réac. Que non. Voici un autre exemple.
Il faut que notre pays arrête d'être un guichet social. Parce que voyez-vous, moi, j'entends parler matin, midi et soir d'économie, de réforme sur l'assurance chômage, d'augmentation des taxes sur les carburants, de doublement de la franchise médicale. Et pendant ce temps-là, on offre les soins gratuits à tout le monde, à des gens qui arrivent sur notre sol, qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé. Ils bénéficient de toute la palette de soins gratuits avec l'aide médicale.
Oui, je me suis dit, je mets un peu de Jordan. Histoire de s'habituer, comme il va bientôt remplacer Marine à la tête de la franchise familiale, bah du coup, qui sera
plus familiale. Enfin, on dit plus familiale, c'est vite dit quand même. Hein. On a eu le papy gâteux, la nièce fofolle, la marâtre kleptomane. On peut bien voir le caniche de la maison à la tête du parti. Hein. Bon, tu as l'idée. On a donc un faisceau de militants, d'organisations, de la manif pour tous aux parents vigilants de l'éducation nationale, jusqu'à des collectifs, et oui, ça existe, qui s'opposent au concert de Bilal Hassani. Alors perso, j'avoue que je ne suis pas un grand fan de Bilal, mais enfin, de là à organiser un collectif pour s'opposer à l'organisation de son concert à la grande salle des fêtes de la Garenne sur Champs, il faut quand même vraiment se faire chier dans la vie. Et à côté, on a les fachos, le Rassemblement National.
Moi, les fachos, c'est bien.
Voilà, justement, le texte de Pietro Ignazi sur la Silent Counter-Revolution, dont je parlais tout à l'heure, montre bien que le succès de l'extrême droite ne tient pas qu'aux fachos. Not all RN, not all RN. D'ailleurs, je dois partiellement donner à ce stade raison à Marion Maréchal.
L'extrême droite, ça répond à une définition précise. L'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. C'est des critères de sciences politiques et objectivement, le Front National ne répond pas à ces critères.
Voilà, après je lui donne que très 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 partiellement raison, parce que la leçon de sciences politiques est assez incomplète, et sur les critères donnés ici, le RN qui n'est pas anti-parlementaire, ça date de l'arrivée de leurs 125 députés, donc 2024, et puis bon, pas autoritaire, bon, ça se discute un peu. Mais oui, c'est vrai, il semble y avoir une appétence électorale, un peu comme le McDo de sortie de spectacle à 23h, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que tu vas faire caca liquide le lendemain, mais t'en bouffes. Donc Marine Le Pen, c'est vrai, s'est qualifiée pour le second tour de la présidentielle de 2017, en 2022, avant de se qualifier pour 2 ans de prison ferme. En 2022, elle rafle 41,5% des suffrages exprimés, soit 13 millions de voix. Jordan, lui arrive en tête aux européennes en 2019 et en 2024. Aux législatives qui suivent, le parti récupère même 33% des voix et donc les 125 sièges à l'Assemblée nationale dont je parlais. Dans ces conditions, c'est vrai, le jeu paraît plié. C'est bon, quoi. Comme disait ce bon vieux Georges Marchais, qui était alors en vacances en Corse.
J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris.
Même si là, c'est pas Paris où il faudrait aller. D'ailleurs, on se demande un peu où est-ce qu'on pourrait demander le statut de réfugié politique wokiste en ce moment. Le monde entier paraît se dédroitiser. On a eu du Trump et son triptyque Baal, Bible et Bœuf. On a Orban, Bolsonaro, le Vlaams Belang en Belgique, la Ligue du Nord et la MSI en Italie, la FD en Allemagne, on en parle souvent ici, le Parti des vrais Finlandais, les Républicains suédois, le Parti du Peuple au Danemark, on a Obdoré en Grèce, Chega au Portugal. C'est une vraie petite internationale réac. Mais, et là je suis obligé de vous parler de ce que je fais dans la vie. Dans la vie, je fais des enquêtes quantitatives en sciences sociales. C'est mon kiff, c'est ma raison de me lever le matin, tout ça. Et ça colle pas. Désolé, non mais ça ne colle pas. Dans toutes les enquêtes que je peux faire, dans toutes les enquêtes que je peux lire, et toutes et tous les collègues qui travaillent avec ces méthodes vous le diront, quand vous interrogez les gens, ils vous disent que leur priorité, la priorité, c'est le pouvoir d'achat à une écrasante majorité. Après, pas mal derrière, c'est vrai, il y a l'immigration, l'insécurité, mais souvent à égalité avec les préoccupations sur la situation économique, la santé et la qualité des soins, le changement climatique, l'école publique ou encore la précarité et la pauvreté en France. Et ça fait des années que ce constat est là. Un décalage entre les aspirations des gens qui répondent aux enquêtes, d'un côté, et la réalité des résultats électoraux et la couverture médiatique de certains sujets, de l'autre côté. Alors comment on réconcilie tout ça? À mon sens, il y a deux phénomènes qui sont conjoints. Le premier est très bien documenté par Vincent Tibéri dans son magnifique dernier livre « La droitisation française, mythe et réalité » paru au PUF en 2024, et c'est ce qu'il appelle « la grande démission ». J'y reviendrai. Le second phénomène, c'est un truc assez classique en sciences politiques, la spirale du silence. On en a déjà pas mal parlé, en fait, à la demi-heure. Ce tapis de bombes permanent de l'extrême droite qui martèle ses thèmes pour les imposer dans le débat public. Tiens, un exemple. Bruno Retailleau ou Gérard Darmanin ne sont pas possibles, pas imaginables, sous l'ère Mitterrand-Chirac. Parce que les années 80-90 avaient positionné, par exemple, les questions d'immigration un peu comme hors champ de la discussion. Même l'UMP reconnaissait à l'époque le risque populiste à mettre l'accent sur ces thèmes. Mais aujourd'hui, même dans un parti comme Renaissance, supposé être centriste, on a des propos quand même très limites sur ces sujets. Et donc la fenêtre d'Overton s'est largement ouverte. Donc nos esprits et l'espace public sont colonisés par des thèmes, non pas pas pertinents, il faut en parler, mais surgonflés, surprotéinés, au détriment d'autres termes. Et il suffit de voir à quel point les médias de la sphère Bolloré reprennent et répètent les enjeux de la droite la plus putride sur une base quotidienne. Il y a donc des cadrages qui s'impose et qui donne l'impression que la société française entière
pense dans ces termes-là. C'est donc un phénomène de spirale du silence qui a été théorisé par Elisabeth Noël-Neumann.
Elle est à l'origine de cette théorie qui désigne le phénomène selon lequel les gens évitent d'exprimer des opinions impopulaires afin de mieux s'intégrer et éviter l'isolement social. Le phénomène a notamment été étudié dans le contexte des réseaux sociaux où les gens adaptent leurs opinions pour s'ajuster à leurs amis Facebook ou Twitter.
En gros, si t'as l'impression que ce qui préoccupe tes proches ou le pays réel, la vraie France, ce sont d'abord les thèmes de la droite, simplement parce que c'est martelé partout, eh ben progressivement, tu finis par taire tes idées de gauche parce que tu te sens minoritaire. Tu intègres le fait d'appartenir à une minorité, quand bien même tu peux en réalité appartenir à une majorité, mais une majorité qui se tait. C'est la spirale du silence. Et si on le dit en des termes trop utilisés de Gramsci, le risque que la droite gagne la bataille idéologique, c'est qu'elle réussisse justement à imposer ces termes partout, tout le temps, avec son vocabulaire, au point où des alternatives de gauche sont mises en sourdine. C'est le risque immédiat d'ailleurs, d'avoir des médias concentrés dans les mains de quelques milliardaires dont on sait qu'ils ne brillent pas par leurs idées de partage, de justice ou d'égalité.
Nous ne pensons pas que cette surconcentration du secteur des médias soit une fatalité. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre pour armer des journalistes, pour armer des citoyens, pour armer le législateur aussi, pour faire en sorte que demain, avec la loi, on ait les conditions de protection de l'indépendance des journalistes et de préservation du pluralisme des médias.
Julia Cagé, qui est citée ici, parle ici de son livre, hein, copublié avec Benoît Huet, « L'information est un bien public », où il propose pas mal de solutions autour de l'importance de redémocratiser l'actionnariat des médias, d'alimenter le financement citoyen des médias, d'être concerné, voire quelquefois d'imposer une certaine diversité des points de vue et des prises de position dans l'espace public. D'ailleurs, lisez ce petit livre, hein, « L'information est un bien public ». Il est plein de bonnes idées pour réformer le secteur des médias qui pose aujourd'hui autant de problèmes. Donc voilà, ok, les médias se droitisent, la couverture médiatique se droitise, qu'en est-il du pays ? Eh bien, je fais de nouveau référence aux travaux de Vincent Tibéri, grand connaisseur du fonctionnement des sondages, et qui rappelle qu'il y a sondage et sondage. En deux, trois mots, il y a la mesure des opinions dans un sondage pot pourri grand public qui va sortir une série de gros chiffres pour faire la une et le buzz, avec sa série de commentateurs de courses de petits chevaux en mode « On a un sondage exclusif !» C'est un peu ça.
Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner.
Voilà, la passion de faire le buzz avec des chiffres construits, parfois avec les pieds. Et de l'autre côté, à côté de cette grande industrie du sondage qui cherche d'abord à vendre, hein, soyons honnêtes, il y a les indices longitudinaux des préférences. Alors, le mot paraît chiant, c'est parce qu'à côté du bruit et la fureur des sondages, c'est effectivement chiant, hein, c'est mon boulot. Ce sont des indicateurs standardisés dans le temps qui permettent de suivre des évolutions barométriques. Et là, Vincent Tibéri montre bien que sur les préférences culturelles, comme sur la tolérance, la société française n'a en réalité jamais été aussi ouverte. Sur la peine de mort, la sévérité des tribunaux, la place des femmes, la tolérance envers les minorités sexuelles, le droit à l'adoption, les opinions sur les juifs, les opinions sur les musulmans, etc. On n'a jamais été aussi woke collectivement. Ah oui, on n'a pas l'impression, hein. Forcément, on nous rabâche à longueur de temps que c'était mieux avant. C'est l'illustration type de la spirale du silence dont je parlais et de la force de l'agenda droitard. CNews et la Bolloré-sphère en premier chef. Et au-delà de ce phénomène de spirale du silence, il y a ce qui a été identifié par Vincent Tibéri comme, j'en parlais comme du premier phénomène tout à l'heure, une grande démission.
Et là, on retrouve le renouvellement générationnel, c'est-à-dire que la grande démission, elle ne touche pas les boomers. Ils sont toujours là, ils vont voter de manière constante à toutes les élections.
Mais, d'ailleurs, juste sur la question des boomers, ils votent de plus en plus à l'extrême droite.
Oui, tout à fait.
Donc, en fait, c'est la clé un peu du
scrutin. Et en fait, l'histoire, c'est que les électeurs, voilà, les boomers vont voter, et les électeurs qui vont voter sont de moins en moins représentatifs du reste de la société. Et donc, à mesure qu'on... Plus une élection va être faible en termes de participation, plus on peut s'attendre à ce que le résultat des urnes soit en décalage avec ce qu'on pourrait avoir si tout le monde se déplace.
Et donc, son constat est simple. Utiliser les résultats des élections aujourd'hui en France pour justifier l'état des opinions politiques du pays est très, très, très problématique. Par exemple, aux dernières législatives, 46% des ouvriers n'ont pas voté. 46%, un ouvrier sur deux. Donc quand le RN dit qu'il est le parti des ouvriers, non, l'abstention est le parti des ouvriers. Et l'inquiétude que relèvent d'ailleurs plusieurs politistes, c'est que d'une part, Les classes populaires votent de moins en moins et sont de plus en plus silencieuses parce qu'elles ne voient pas leurs intérêts défendus dans d'autres collectifs, dans d'autres manières de faire du politique. Mais d'autre part, les diplômés du supérieur lâchent aussi avec, par contre pour leur part, d'autres moyens de faire du collectif.
Et surtout, il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent, c'est pas n'importe qui. J'ai parlé des boomers, mais ce qu'on constate désormais avec les données...
Ceux qui restent et ceux qui vont voter.
Ce qu'on constate, c'est que parmi les boomers, il commence à y avoir un début de décrochage parmi les ouvriers employés nés dans les années 40-50. Parce que c'est là où commencent à se jouer les inégalités face au vieillissement, les inégalités sociales. Et donc, ce qui reste, ça va être bientôt du boomer conservateur, riche, que ceux qui restent, du coup, vont avoir un agenda, des valeurs, des attentes pas forcément représentatives ou en tout cas en adéquation avec ceux qui ont décroché.
Youhou ! Et ce genre de cécité est un problème pour une démocratie. Et oui, je dis cécité parce que peut-être qu'on devrait se préoccuper que dans les enquêtes sociologiques, 40% à 50% de nos répondants ne se disent proches d'aucun parti, comme si la politique ne les concernait pas ou plus. Alors, parlant de cécité à éviter, on ne peut pas nier la progression du RN dans les urnes. Elle est réelle, elle est tirée par des gens qui, par le passé, ne votaient pas RN. Les plus âgés, les cadres, les plus diplômés. Pourquoi ? Eh bien, on revient sur une autre logique. On a fini par valider le RN. On a fini par valider son agenda, ses thématiques, ses manières de parler. Il y a quelque chose de l'ordre du desserrage normatif dans la responsabilité, tient d'ailleurs en partie à Emmanuel Macron. Le vote RN, il est là pour un bout de temps, il ne va pas partir comme ça. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce vote pour la droite, il existe, il est fort, il est réel, mais il demeure minoritaire. Minoritaire parce que, en fait, beaucoup trop de nos concitoyennes et concitoyens ont décidé, à bas bruit, de démissionner de leur rôle de citoyen et ne vont plus voter. Et ceux qui restent veulent donner l'impression qu'ils sont la France. La bonne nouvelle aussi de cette histoire, avec les indicateurs longitudinaux des préférences, c'est que la tolérance et l'ouverture dans la société n'ont jamais été aussi élevées. Donc, non, la France ne se droitise pas. Par contre, des acteurs bien conscients de ce qu'ils cherchent à faire veulent nous donner cette impression. Et d'autres, plus ou moins inconscients, jouent ce jeu. La mauvaise nouvelle, du coup, c'est qu'il faut se remonter les manches pour casser l'emprise médiatique de nos petits milliardaires, pour remobiliser les gens politiquement, porter les messages et les ramener vers les élections. Parce que oui, les élections, c'est sans doute pas génial, mais c'est le seul moyen qu'on a jusqu'à ce jour.
Merci Jérémy. Je sais pas si je dois dire merci ou me pendre.
Comme il y a des bonnes nouvelles.
Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut emmener 46% de gens à aller voter.
Voilà.
C'est très bien. Eh ben, on va commencer ce soir. Commence dès ce soir en envoyant cette émission que tu écoutes en podcast
à tous
les boomers que tu connais, les boomeuses, les gens qui votent pas, les gens qui votent mal. Parce que oui, il s'agit de bien voter, évidemment. Merci de nous avoir écoutés. Il n'y a pas d'invité ce soir. Toujours les aléas, malheureusement, de la demi-heure qui, parfois, on trouve personne pour venir nous accompagner. Pourtant, on se lave, promis. On espère que le mois prochain, il y aura quelqu'un et qu'on fera toute l'heure ensemble. En attendant, tu peux rester sur Radio Campus Paris puisque pendant 20 minutes, tu vas avoir de la bonne musique. Et si je dis pas de bêtises, après, Rosalie, corrige-moi, mais c'est Laura de Radio qui enchaîne avec nous, comme d'habitude. Tout à fait. Et donc, écoutez, c'est très bien, c'est de la lecture. Ça fait du bien, un petit peu, après toutes ces nouvelles. Merci de nous avoir écoutés. Tu peux nous retrouver, évidemment, sur radiocampusparis.org en podcast, mais aussi sur Spotify, Apple, Deezer, etc. Toutes les plateformes de podcast. On te souhaite une très bonne semaine, un très bon printemps et on se retrouve dans 4 semaines. Ciao. We started-